Cet entretien fut réalisé le 29 février 2008 à Berlin et s'inscrivait dans le cadre d'un master de recherche. Il visait à mettre en lumière l'autoréflexivité dans le travail de Farocchi et comment celle-ci s'introduit dans le dispositif de l'installation cinéma. Né en 1944 en Tchécoslovaquie, le réalisateur rentre à l'école de cinéma de Berlin 20 ans plus tard, en pleine guerre froide. Il y fait la connaissance de figures du cinéma d'avant-garde comme Armut Bitomsky, Holger Mainz, mais aussi Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, qui seront les modèles de cette jeune génération imprégnée des théories marxistes. C'est donc dans ce cadre très politisé que Farocchi débute sa carrière. Depuis la fin des années 1960, il a réalisé près de 90 films et installations, tous porteurs d'une analyse contestataire du pouvoir de l'image, dans la fabrication de l'histoire, et de sa puissance à retranscrire un discours politique. Le cinéaste construit une stratégie pour faire jouer les images entre elles, afin de mettre en évidence la manière dont se définit et se constitue le visible, et donc dans le même temps, le non-visible. L'écriture essayiste du cinéaste analyse spatialement les représentations et ancre la pensée politique dans une réflexion sur la discursivité des images. Il rédige également, aux côtés de Armut Bitomsky de 1974 à 1984, dans la revue Film Critique, de nombreux textes d'analyse cinématographique. Il commence à acquérir une visibilité en France depuis la fin des années 1990, grâce à la parution de ses textes ou de ceux de critiques tels que Christa Blumlinger ou Raymond Bellour, dans la revue de cinéma Trafic fondée par Serge Danet. Assez méconnu dans France, mais également jusqu'il y a peu dans son propre pays, il est assimilé de préférence au cinéma documentaire jusque dans les années 2000. Depuis les années 1990, le réalisateur s'est introduit dans le champ de l'art contemporain, et l'espace d'exposition l'incitera, tout comme les cinéastes Chris Marker, Chantal Akerman, Raoul Ruiz ou Peter Greenaway, par exemple, à imaginer différemment sa recherche cinématographique. Le travail de recherche s'attachait à un point bien spécifique de la démarche de l'artiste. Haroun Farocchi part du postulat qu'une image n'existe pas comme objet seul. Elle est toujours constituée, c'est son essence même du rapprochement de plusieurs éléments de réalité. Une image est une mise en rapport, et la compréhension de l'image passe par la compréhension du processus de pensée qui a permis le rapprochement. Entre autres spécificités, la particularité du cinéma de Farocchi, et surtout celui qu'il réalise à partir de la fin des années 1980, est de s'appliquer à démonter obstinément les rhétoriques des images préexistantes tout en mettant son propre discours de réalisateur en évidence. La question du travail est ainsi fondamentale dans son œuvre. Comment filmer le travail ? Se demande l'auteur, tout comme Jean-Luc Godard dans les années 1970 et 1980. Ainsi, voit-on souvent Farocchi au travail dans ses films, regardant, manipulant des images. Il apparaît à sa table de montage, qu'il nomme bureau ou laboratoire, montrant deux images, lisant des livres. Les mains et les yeux deviennent des opérateurs primordiaux. Le cinéma n'est pas un média du toucher, c'est un média du regard, dit-il dans son film-essai Der Ausdruck der Hand, l'expression des mains, en 1997. Cette méthode s'inscrit dans une certaine approche de l'activité artistique. Le marxisme, les théories esthétiques et politiques de Bertolt Brecht, ainsi que celles de Walter Benjamin et Théodore Adorno, ont joué un rôle considérable dans l'appréhension de son travail d'artiste, son activité de producteur de sens, mais aussi dans la forme qu'il décide de donner à ses films.
En 1983, vous avez fait un film où vous avez filmé Jean-Marie Straub et Daniel Huillet au travail. Et je voulais savoir si vous pouviez me parler de ce projet.
Ah oui, c'était bien simple parce que à l'époque, les Straub ont habité chez moi quand ils ont fait des recherches ici parce qu'ils voulaient faire le tournage à Berlin au début. On a déjà cherché, on a fait des réparages, on a cherché des locations, les lieux pour filmer et tout cela. Alors, ils ont fait des essais et tout cela, et on a décidé que moi, que je peux aussi contribuer en jouant de la marche dans ce film. Alors, c'était bien simple, parce qu'il me fallait déjà apprendre tous les textes et contribuer et être présent aux essais et... J'ai demandé au VDR, à l'époque on pouvait faire des petits films sur les productions aussi d'art et essai. Aujourd'hui ça serait impossible, je suis sûr. Et pour cela j'ai décidé alors à filmer les épreuves et plus tard à Hambourg le tournage aussi, mais seulement quelques petites parts pour avoir une comparaison. Pour voir, alors ça sont des études et ça c'est le tournage au fond.
Pourquoi vous avez décidé de les filmer en train de tourner? Pourquoi ça vous semblait intéressant?
Oui, parce que c'était cette méthode est un peu incroyable, on comprend bien pourquoi ils répètent tout cela, pourquoi ils font 24 versions d'une petite scène comme avec une seule phrase. Alors Bresson fait la même chose, c'est peut-être pour créer un état où les comédiens ne peuvent plus contrôler qu'est-ce qu'ils font. Ils ont beaucoup de règles, et quand on parle avec les Straub, j'utilise le présent, même que Daniel est mort en toto. Ils ont beaucoup de règles. Quand le film est fait, c'est très difficile à parler avec eux, alors ils n'expliquent pas vraiment les principes esthétiques, pas du tout. Et pour cela, c'est bien mieux d'observer qu'est-ce qu'ils font.
Et vous les avez rencontrés comment?
Les Straub?
Oui.
Ah, ça fait déjà... C'était au début des années 70, je crois. Ou... Non, c'était la première fois, c'était en 66 quand Jean-Marie Straub est venu à l'Académie de cinéma à Berlin pour discuter son film Nicht versöhnt. Et depuis cela, quelques fois, je l'ai rencontré à Köln, à Munich, à Hambourg, et on est devenus des amis de cette manière. Et dans notre début, qui s'appelait Film Critique, nous avons beaucoup écrit sur les Straub, beaucoup publié. Ils étaient notre zéro. C'était une manière de manifestation, de dire le cinéma allemand présent nous n'intéresse pas, mais le principe des Straub, ça c'est vraiment quelque chose de politique, ou esthétique radicale, ou quelque chose.
Vous présentez souvent votre travail à la façon d'un ouvrier ou d'un chercheur. Je voulais savoir pourquoi vous faisiez cette chose-là.
Je ne suis pas le seul qui a fait cela.
Alors, oui,
Godard a beaucoup de fois fait exactement la même chose. C'est probablement au début du XXe siècle, la production intellectuelle est devenue autoréflexive. Et les écrivains ont commenté sur la méthode d'écrire et aussi les textes racontent comment le faire et tout cela. Cette autoréflexivité, ce n'est pas une chose nouvelle. Seulement pour le cinéma, parce que le cinéma essaie toujours à cacher les moyens techniques. Et c'est pour cela, c'est bien intéressant de faire le contraire, naturellement. Mmh. Et de montrer, naturellement, on ne peut pas vraiment le montrer, mais de créer une certaine transparence des moyens. Et je crois aujourd'hui, avec l'ordinateur, c'est chacun le fait. Aujourd'hui, chacun dit, alors j'ai utilisé Flash et c'est cela. Chacun aime à commenter et avec quelle méthode quelqu'un a réussi ou pas réussi à faire quelque chose. Et seulement avec le cinéma, c'était cette grande machine d'illusion. Et mais naturellement, les principes du théâtre de Brecht sont aussi... au contraire, toujours montrer la machine du théâtre et les méthodes dramaturgiques et tout cela. Et pour cela, c'est une approche naïve, bien proche.
J'ai lu sur Internet une interview de vous que vous avez donnée en décembre dernier pour Orchamp. Vous dites que vous êtes un peu lassé de vous montrer en train d'expliquer. Pourquoi le commentaire, ça reste important dans votre travail ?
Important, oui, mais j'ai fait beaucoup de films sans un seul mot. Alors, en quelques cas, 20 pages et en quelques cas, rien. C'est très très difficile parce qu'en général, les mots sont en charge dans les films documentaires et la structure est créée par les mots et pas par les images. Parce que c'est... Dans les films narratifs, c'est bien simple, la narration crée une structure, on sait comment lire, hein, parce que cette matrix de narration préexiste. Avec les documentaires, c'est la logique du discours, en beaucoup des cas, ça, c'est pas suffisant, et pour cela, le commentaire est un grand problème. Alors, comment éviter que les mots règnent? Ja, herrschen, regieren, règnent, ja. En quelques cas, par exemple, dans le film tel qu'on le voit, je crois, ou Image du monde, j'ai utilisé beaucoup de langage, mais le langage, ou les textes, sont aussi utilisés un peu comme les images, il y a une montage. Alors, ce n'est pas un grand flux, mais il y a des éléments, et les éléments A en relation avec élément B ou C ou quelque chose, et je les réutilise et je les adresse une deuxième ou troisième fois. Et ça, c'est peut-être une solution pour éviter que que seulement les langues expliquent ou interprètent ce qu'on fait. Parce que les méthodes cinématographiques sont aussi utilisées pour les mots de cette manière.
Jacques Rancière écrit dans La politique esthétique qu'il y a un difficile équilibre à trouver. D'une part, la lisibilité d'un message qui menace de détruire la forme sensible de l'art, et puis d'autre part, l'étrangeté radicale qui peut menacer de détruire la signification politique qu'on peut donner.
Je crois qu'on doit vraiment aussi donner une certaine autonomie aux formes esthétiques. Alors on ne peut pas simplement utiliser l'un pour l'autre et dire oui. Alors ça c'est la méthode adéquate ou quelque chose. Alors une certaine autonomie, et je crois que dans ce champ, j'ai appris beaucoup des Straub, pas les Straub, parce que les Straub ont toujours disaient alors il faut raconter cela ou expliquer cela, mais les plans ou les mots, le rythme et tout cela a toujours préservé une grande autonomie. Et cette contradiction existe naturellement, mais ça c'est un peu comme avec les poètes du XVIIe siècle où il y avait des règles avec les rimes et toutes ces prescriptions, comment utiliser la langue. Et c'est aussi bien d'avoir ces contraintes parce qu'il faut faire des efforts pour les expressions ou les formulations.
J'aimerais aussi discuter avec vous du passage de la salle de cinéma à la salle d'exposition.
Oui, alors c'est un peu par hasard, simplement le dispositif en général s'est changé. Alors, aux années 90, commercialisation de la télé a commencé en Europe, et maintenant, c'est presque impossible pour moi de trouver des moyens à la télé. Alors, en Allemagne, il y a encore une brave productrice qui me donne des fric, et peut-être encore... Peut-être je trouve encore un deuxième, un troisième, mais c'était totalement différent, disons avant. Et au contraire, dans beaucoup des, on ne peut pas dire musée, mais espace d'art ou quelque chose comme le Pompidou, ou comme Kunstwerk à Berlin, ou à Vienne, dans tous les pays, maintenant il y a quelque chose. Ces lieux d'art où les gens se rencontrent, qui s'intéressent pas seulement au cinéma expérimental, mais aussi à l'architecture, à l'art, musique, théorie, discours et tout cela. Et ça sont quelque chose comme des universités privées parallèles. Et c'est bien intéressant de montrer des choses. Et je trouve aussi des moyens, là, ça aide naturellement pour continuer à travailler. Parce que ces collections achètent les choses, ça donne des moyens pour faire des autres choses. L'avantage, c'est qu'en général, dans un espace d'art, les gens ne disent pas, alors je connais le code, mais il se demande quel code est valable, ici, oui, mais pardon. Quel code est valable ici, il se demande cela. Alors il y a moins de contraintes d'un côté. Alors c'est l'autre chose, c'est naturellement que c'est un peu comme une dérive, on passe par une exposition, on regarde pour une minute ça et pour 5 minutes l'autre chose, et c'est pas comme dans une salle de cinéma où on doit rester pour 90 minutes ou quelque chose. Et pour cela, il faut aussi trouver des autres structures, plus les structures du loop, de la répétition. Mais je m'intéresse en général à toutes ces stratégies de répétition et de variation, toutes ces stratégies aux structures musicales. Alors, peut-être, c'est bien pour moi, ce chant. Mais. Il y a aussi beaucoup d'expositions qui montrent les films que nous avons faits pour le cinéma ou pour la télé. Alors, l'exposition avec un petit moniteur où on voit quelque chose de 1h50, je ne crois pas que ça aide. Ça, c'est une présence symbolique. C'est un peu comme acheter un livre. On ne doit pas lire, mais on a acquéri les idées. Ils sont dans la bibliothèque, oui. Alors, cette présence symbolique semble un peu étrange. Si vous regardez dans le web, j'ai presque chaque mois une ou deux expositions et c'est simplement une DVD d'un film qui est montré là dans un moniteur. Je ne sais pas que ça aide.
Et j'ai lu que vous parliez de choix. Vous laissiez le choix au spectateur de faire des connexions, de ne pas faire des connexions entre différentes images. Et qu'est-ce que ça signifie? Comment vous envisagez, par exemple, une sorte de montage par la personne qui regarde votre film?
Oui. Alors ça, c'est simplement une question de proportion ou du degré. Naturellement, il y a une détermination par l'auteur ou par le produit. On ne peut pas... Naturellement, chacun peut penser qu'est-ce qu'il veut, naturellement, mais il y a déjà une détermination par le montage préexistante. Mais après, naturellement, en quelques cas, tout est décisif déjà, et en quelques cas, c'est un texte plus ouvert, c'est simplement cela. Et j'essaye à faire des textes plus ouverts, mais pas d'une manière vague, naturellement, mais disons, en faisant beaucoup de décisions déjà, mais soudainement, il y a beaucoup de possibilités pour le lire en détail. Alors, disons, le livre Mille plateaux, c'est aussi, d'une manière, c'est beaucoup de détails et quelle connaissance et tout cela, et mais quand même, qu'est-ce que ça signifie? C'est très ouvert, on ne peut pas le lire de A à Z et faire un résumé, c'est très complexe et très, très ouvert aussi. Ça c'est un idéal naturellement, seulement je ne veux pas me faire une comparaison à cela, mais... c'est presque le même principe.
Les critiques de vos films rattachent souvent votre pratique aux théories marxistes. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Je ne sais pas. On le fait au présent encore? Je ne crois pas. Alors, au début, à l'âge de 20 et quelque chose, c'était, avec l'exception de Adorno et Benjamin, Marx, c'était la première formation que j'ai fait d'une manière profonde ou quelque chose. Et à l'époque, nous avons même essayé à faire des films sur le capital et tout cela. Alors, jusqu'aux années 60, non, 80, presque 80, le marxisme était très très important, mais après cela, le marxisme est qu'un élément, je crois. Il y a aussi des autres influx naturellement. Mais même aujourd'hui, quand je ne trouve pas que cette méthode de lire l'histoire, ou de lire l'histoire un peu comme des sciences de nature, Natural Science, Naturwissenschaften, sondern...
Sciences naturelles,
ouais. Yeah, science naturelle, ouais. Oui. Des sciences naturelles, merci. Alors même, ça c'est un peu le 19e siècle, naturellement, de croire qu'on peut maîtriser le procès d'histoire comme dans un laboratoire. À cela, je ne crois plus, mais beaucoup des éléments de la critique, de lire le présent et aussi tous ces des éléments d'interprétation hegeliens m'intéressent encore. Mmh. Alors l'influx, c'est probablement encore fort. Aussi à mon insu, je suis sûr.
En France, les deux ouvrages de Frédéric Jameson vont être traduits. Et donc apparaît la question de ces actualités, de ces théories.
Oui, je crois que Jameson, c'est une exception. Il sait utiliser le marxisme comme un utile productif. Beaucoup des marxistes dans le champ d'art ou de la culture répètent toujours les mêmes choses. Alors, tout c'est déjà expliqué. On doit simplement référer à ces phrases par Lénine ou par Marx ou quelque chose. Mais avec Jameson, c'est différent. Il l'utilise pour lire le présent culturel d'une autre manière, d'une manière politique. Et je suis sûr que Rancière est aussi forcément influencé par le marxisme, ça c'est bien sûr. Ouais. Il était maoïste aussi, je crois.
Oui,
oui. Alors, ça c'est présent, mais ce n'est pas la seule formation, naturellement. Je crois comme un élément, pour le faire simple, la révolution sociale, c'est un peu comme avec la révolution politique en France. Les détails étaient terribles, mais le principe ne peut pas être jamais perdu, naturellement. Der grundsätzliche Anspruch der sozialen Revolution bleibt. Ça c'est peut-être quelque chose. Man kann das nicht zurücknehmen.
Retirer.
Pardon, on ne peut pas
retirer,
oui. Très bien.